Dans le Tarn-et-Garonne, Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Paillet, le jeu des 1000 euros, c'est la dernière de la semaine, à la Bastide Saint-Pierre.
Chers amis, bonjour !
Bonjour !
Dans le Tarn-et-Garonne, la Bastide Saint-Pierre, une petite ville de 3800 habitants, très proche de Montauban et sur les bords du Tarn, un territoire qui fait partie de l'appellation viticole Fronton. Fronton, c'est une AOC depuis 1975 et cette AOC s'étend sur deux départements, donc la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne. On appelle parfois ce vin le vin des Toulousains, et compte tenu de la relative proximité avec la ville rose. Alors rose, oui, il y en a un peu dans le vin parfois, il y a du Fronton rosé, mais c'est surtout un vin rouge, vignoble très ancien, qui est devenu un vin de qualité depuis une bonne trentaine d'années. Le cépage principal, c'est la négrette. D'ailleurs, dans la salle dans laquelle nous sommes, s'appelle la salle de la négrette. Alors, ce cépage donne un vin très coloré, plutôt tannique, arôme de réglisse ou de violette, disent certains, ce qui nous ramène à Toulouse d'ailleurs. Et on compte ici, sur le territoire de la commune de la Bastide-Saint-Pierre, 9 domaines viticoles, mais aussi de nombreux domaines arboricoles, surtout des cultivateurs de pommes, mais aussi des fruits et des légumes, enfin d'autres fruits et des légumes. Le château du Clos est un domaine bien connu, on y cultive des fruits, donc surtout des pommiers d'ailleurs, des pommes et des pommiers, ou plutôt des pommiers et des pommes. Et on fait des jus naturels, des jus de pommes, mais aussi de poires et de raisins, et quelques boissons pétillantes sans alcool. Le château du Clos lui-même, qui domine la propriété, a été au XVIe siècle une belle résidence de seigneurs et de barons, et on dit que Richelieu et Henri IV auraient séjourné dans la bâtisse. Mais on dit tellement de choses. Fin de notre semaine dans le département du Tarn-et-Garonne, à la Bastide-Saint-Pierre, pour jouer aux côtés de Jean-François Delors et Julien Caillot. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez Fronton, justement.
J'habite Fronton, oui.
Au milieu des vignes.
Près des vignes.
Près des vignes.
Et je parcours la commune avec les vignes.
Avec les vignes et à vélo souvent.
À vélo souvent.
Oui. On dit dans la région que vous avez 93 000 km au compteur. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, mais sur un grand nombre d'années et à chaque jour suffit à peine. 30 km par jour.
30 km par jour. C'est bien déjà. C'est bien. Jean-François, vous fréquentez les archives de Montauban parce que vous faites des
Montauban,
recherches historiques.
Oui, Montauban, Toulouse, Fronton beaucoup. C'est mon dada. Je suis né à Fronton, des ancêtres en remontant jusqu'à la nuit des temps.
Et Fronton se trouve, je parle de la commune, en Haute-Garonne.
En Haute-Garonne. C'est la commune la plus au nord du Tarn-et-Garonne.
C'est ça. Et juste à côté
de la Haute-Garonne.
De la Haute-Garonne.
Et elle a failli, en 1808, elle a failli faire partie du Tarn-et-Garonne.
Oui. Lorsque Napoléon a créé le département du Tarn-et-Garonne, on dit qu'il
c'est
a...
Pas vrai.
C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, c'est bien. Alors voilà. Voilà une information. Et
c'est pas vrai. Je tiens à souligner toutes les incongruités qu'il y a dans les explications historiques ordinaires.
Non, alors c'est-à-dire qu'on dit que Napoléon aurait entouré sa main et que ça ferait la forme du département.
Oui, encore que quand on regarde la forme du Tarn-et-Garonne, avec la forme d'une main,
oui, mais...
il y a un rapport extrêmement lointain.
Oui, mais on ne connaît pas la main de Napoléon, d'un autre côté. Hein.
Enfin, c'était une main à cinq doigts.
Oui, c'est vrai, d'accord. Donc ça ne correspond pas. Mais c'est bien lui qui a décidé de la création du département.
Oui.
Ah, d'accord. Jean-François avec Julien Caillot. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Montauban ?
Oui.
Et alors, vous faites, vous aussi, vous pratiquez le vélo, le déplacement à vélo.
Un peu moins de kilomètres au compteur que Jean-François, mais
pas
quelques-uns.
Pas encore 93 000, voilà. Oui, vous ne comptez pas, mais...
Surtout
vous,
du vélo urbain.
Urbain, ouais. Donc vous faites des déplacements au quotidien pour aller au travail.
Ça, ouais. Oui.
Vous pratiquez le jardinage, par ailleurs.
Oui, en amateur, tomates, concombres, courgettes.
Ça pousse bien dans la région, la terre est bonne.
Oui, la terre est très bonne, c'est un très bon terroir. Moi, je ne suis pas natif de Montauban, mais je m'aperçois que les arbres fruitiers poussent très bien. Et puis.
Et oui.
Il y a l'ensoleillement suffisant et nécessaire sur
peut-être,
le territoire.
Peut-être un manque d'eau ces dernières années, en revanche.
Peut-être un petit manque d'eau, ouais. Oui. Effectivement.
Jean-François Delors, Julien Caillot, voulez-vous jouer avec nous ?
Oui.
Bah oui, bien sûr. Alors je vous pose des questions au nom de nos auditeurs. Première question bleue, une question... J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions en géographie, d'ailleurs, dans le tirage au sort d'aujourd'hui. Une question bleue, d'abord, donc, de Conchita et Georges Audoyer, à Caveyrac, dans le Gard. Le mont Pinson, altitude de 362 mètres, est le point culminant d'un département français qui produit des spécialités solides et liquides très appréciées, dont une fameuse eau de vie digestive. C'est ainsi que Conchita et Georges vous posent la question... Quel est le nom de ce département dont le point culminant est le mont Pinson ? Mais ce n'est pas une région montagneuse.
Charente ?
Pas la Charente.
Charente-Maritime ?
Non plus. Pas dans ce secteur.
Gers ?
pas le Gers, bien plus au nord. En Bretagne. Une eau de vie digestive.
Calvados.
Calvados, c'est ça. Le Calvados. Autre question bleue. De Martine et Jean-Michel Ardouin à Venanceau en Vendée. La piperade est une spécialité culinaire à base d'œufs de tomates et de poivrons notamment. De quelle région de France est-elle originaire, la piperade ?
Pays Basque,
avec une variante dans le Béarn d'ailleurs. Oui. Mais c'est vrai, le Pays Basque et la Gascogne. On y ajoute du piment d'Espelette bien souvent dans la piperade. Autre question bleue, et la troisième et dernière pour aujourd'hui, et pour cette semaine d'ailleurs. Joël Chabert vous la pose. Joël habite Marseille dans le 12e. Lorsqu'un chirurgien pratique une appendicectomie, il retire l'appendice. Que retire-t-il lorsqu'il pratique une cholécystectomie ?
Le côlon.
Ce n'est pas le côlon. Ça s'écrit CHO au début. Donc cholécystectomie. Que retire-t-il quand il fait une cholécystectomie, le chirurgien?
Au niveau de la gorge.
CHO. Non. Ce n'est pas au niveau de la gorge, non. C'est une opération assez courante.
Pas le foie.
C'est une ablation courante qui n'a pas de conséquences ou très peu. Mais vous n'étiez pas très loin. Je vous reposerai la question tout à l'heure dans la deuxième partie du jeu. Je vous propose maintenant une question blanche de Gérard Morereau à Moggio dans l'Hérault. Question envoyée sur carte postale. Comment appelle-t-on maintenant, de façon générale, les habitants d'outre-mer?
Les ultramarins.
Oui, on les appelle les ultramarins. Jean-François Deleur et Julien Caillot, je vous pose une autre question blanche. Question de Paris d'Endurant, qui habite Plaisance-du-Touche, en Haute-Garonne. Pas loin d'ici. Quel bâtiment de Nogent-sur-Marne, dans l'est de Paris, est le seul vestige des grandes halles? Quel bâtiment qui se trouve aujourd'hui à Nogent-sur-Marne, dans l'est de la capitale, est le seul vestige sur pied des anciennes halles du cœur de Paris, le ventre de Paris. C'est un bâtiment qui porte le nom de l'architecte.
Baltar.
Eh oui, c'est le pavillon Baltar qui a été récupéré lors de la destruction des halles du centre de Paris pour l'installation du centre de Rungis. Maintenant, la question rouge d'Ida Mendy de Grand-Quevilly, près de Rouen. C'est un état d'Asie centrale qu'il faut trouver, dont il faut trouver le nom, bordé à l'ouest par la mer Caspienne et la Russie au nord. Sa capitale est actuellement, c'est son nom actuel, Nur-Sultan ou Nur-Sultan, depuis peu d'ailleurs. Quel est cet état d'Asie centrale qui abrite la base spatiale de Baïkonour?
Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan.
Kazakhstan. J'aurais dû vous arrêter à votre première réponse parce que c'était la bonne, mais vous avez très bien joué. Vous avez raison, dans la première partie du jeu, il faut y aller. Et c'est le Kazakhstan. Et cette cholécystectomie. Tommy, de quoi s'agit-il? Je vous repose la question de Joël Chabert à Marseille dans le 12e. Que retire-t-on lorsqu'on pratique ou lorsqu'un chirurgien pratique une cholécystectomie? Ça se fait beaucoup maintenant par célioscopie d'ailleurs.
C'est la cataracte.
C'est la vésicule biliaire. C'est l'ablation de la vésicule biliaire. Joël Chabert à Marseille dans le 12e recevra pour cette question 15 euros. Jean-François et Julien, voulez-vous poursuivre avec le... Que décidez-vous?
Oui, banco.
Le repêchage, c'est un repêchage musical aujourd'hui avec un chanteur qu'il va falloir reconnaître.
Toute une vie qui s'étonne dans ce miroir subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne millénaire des visages.
Est-ce à votre avis M, Charles Souchon ou Vincent Delerme? M, Charles Souchon ou Vincent Delerme?
Il s'agit de M.
Mathieu Chédid, M. Massaï, l'un de ses derniers titres, oui.
Le jeu des 1000 euros, Nicolas Stoufflet.
Question banco de Maud Lemercier de Paris 15e, question littérature actuelle. Dans son roman « Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla », il raconte l'histoire de ce couple. Lui est un Français aventurier et un peu escroc, même escroc à 16 heures. Et elle est une Ukrainienne qui l'a rejoint en France et est devenue cantatrice. Une histoire incroyable. Ils se sont dit oui 7 fois et ont divorcé 6 fois. Le titre de ce roman, qui est sorti cette année, « Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla », qui est l'auteur de ce roman. Qui est l'auteur de ce roman, paru cette année, « Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla ». Il est membre de l'Académie française.
Jean-Christophe Ruffin.
Jean-Christophe Ruffin, c'est l'auteur de ce roman « Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla ». Vous avez gagné le banco, voulez-vous vous arrêter là, tenter de doubler vos gains avec le...
Super.
Question super banco de Jean-Paul Ledorant qui habite Meucon dans le Morbihan. Comment appelle-t-on l'élevage des écrevisses ? Oui, je sais, j'ai des questions étranges, oui. Mais c'est la faute de Jean-Paul Ledorant. Comment appelle-t-on l'élevage des écrevisses ? C'est bien dans le dictionnaire, bien sûr. On ne pose pas de questions qui ne soient pas vérifiables dans les dictionnaires papier, sérieux, fiable ou les encyclopédies. Quel nom donne-t-on à l'élevage des écrevisses ?
La crabriculture.
Oui, 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 ça aurait pu bien tenter. C'est l'astaciculture, l'élevage des écrevisses. Question super banco qui permet à Jean-Paul Ledorant dans le Morbihan, à Meucon, de gagner 45 euros. Jean-François Delors, Julien Caillot, merci d'avoir joué avec nous. Le casque audio France Inter, vous l'avez gagné. Le livre des chroniques de l'espace de Jean-Pierre Luminet, vous l'avez gagné également. Et à toutes et à tous, bonne fin de semaine et à lundi, si le cœur vous en dit. Ouais.